de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
Bonsoir chers auditeurs, comment allez-vous? Je suis très heureux de vous rencontrer dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, les infos de l'Indonésie et l'histoire d'aujourd'hui, Mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous à Voice of Indonesia, de l'Indonésie à tout le monde.
RRI World Service, la voix de l'Indonésie avec le journal.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le programme des journaux. Aujourd'hui, on commence par le titre. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche collabore avec l'Institut japonais de coopération internationale pour créer une coopérative dans le secteur de la pêche indépendant. L'Agence indonésienne de contrôle des drogues et des aliments, ou BPOM, de l'Indonésie, commence à aider des États islamiques dans le sud. World Wide Fund, ou WWF, collabore avec l'organisation Scout Mondial pour la conservation de la nature. Le ministère du Commerce est prêt à augmenter les exportations d'épices vers les Pays-Bas. Le Conseil mondial de la logistique et la Chambre indonésienne du commerce et de l'industrie ont signé l'accord sur la numérisation des petites et moyennes entreprises. Le ministre des Finances est optimiste, l'économie indonésienne est maintenue bien que l'économie mondiale ralentit. L'Indonésie propose Ambon comme ville de musique du monde. Chers auditeurs, voici les journaux complets. Le ministère des Affaires maritimes et de la pêche, ou KKP, collabore avec l'Institut japonais de coopération internationale, ou GIJA, pour créer une coopérative dans le secteur de la pêche indépendant qui comprend une formation de 2 semaines au Japon. Le secrétaire général du ministère des Affaires maritimes et de la pêche, Nilanto Prabowo, a déclaré vendredi dans un communiqué de presse à Jakarta que le programme de coopération était une formation pour les ressources humaines qui gère les coopératives nationales des secteurs maritimes et de la pêche afin de pouvoir apprendre du Japon de créer des coopératives nationales indépendantes. Selon Nilanto, si les coopératives de pêche existantes sont gérées correctement, elles apporteront une grande contribution vers le climat des affaires industrielles du secteur maritime et de la pêche nationale. L'Agence indonésienne de contrôle des drogues et des aliments, ou BPOM, a commencé à fournir une assistance pour renforcer les capacités des États membres de l'Organisation de la coopération islamique par le biais d'une coopération avec les pays du Sud. Selon le chef de l'Agence de surveillance des drogues et des aliments, Penny Kalukito, à Bandung récemment, l'Indonésie fournirait une assistance aux pays du Sud, surtout pour les pays dont les économies sont plus faibles que l'Indonésie, les pays pauvres et les pays en conflit. Penny a déclaré que les pays du Sud aidés par l'Indonésie étaient entre autres la Palestine, la Tunisie et le Maroc. Le résultat de la réunion est que de nombreux pays de l'OCI ont demandé à ce que l'Indonésie soit accompagnée de son régulateur. La coopération continuera à être développée à l'avenir. L'Indonésie partagera ses expériences en matière de programme de vaccination aux pays islamiques confrontés au même problème. World Wide Fund, ou WWF, collabore avec l'organisation Scout Mondial pour sensibiliser la jeune génération à l'action de la préservation de la nature en lançant le badge Panda. le lancement du badge panda pour les scouts qui ont fait des actions de conservation de la nature a eu lieu au 24e Jamboree Scout mondial en Virginie de l'Ouest, aux États-Unis. Le badge panda inspirera plus de 50 millions de scouts dans 224 pays du monde pour faire des changements positifs dans leur communauté. Le PDG du WWF Indonésie, Rizal Malik, a déclaré vendredi à Jakarta que le WWF Indonésie considérait les jeunes comme l'avenir de la nation indonésienne. Par conséquent, les connaissances, l'éducation et les actions sur la conservation de la nature et de l'environnement en Indonésie doivent être continuellement données et stimulées. Le ministère du Commerce, représenté par la directrice générale du développement des exportations nationales Arlinda, a visité une société d'importateurs d'épices indonésiennes, Verstagen Spice et Soch BV, à Den Haag, Pays-Bas, dans le but d'accroître les exportations vers les Pays-Bas et l'Europe. Cette visite a pour but d'accroître les exportations d'épices indonésiennes aux Pays-Bas et dans d'autres pays européens. C'est ce qu'a déclaré jeudi à Jakarta la directrice générale du développement des exportations nationales du ministère du Commerce, Arlinda. La visite avait lieu lors de la réunion Market Intelligence Workshop. Cet événement était un atelier. Assisté par l'attaché du commerce, le Centre indonésien de promotion du commerce et des fonctions économiques du monde entier, Verstagen Spice et Soch BV, et une société de fabrication et d'importation néerlandaise spécialisée dans le secteur des épices. Le Conseil mondial de la logistique, la Chambre indonésienne de commerce et des sociétés d'assurance électronique et d'assurance ont signé un protocole d'accord en vue de numériser les petites et moyennes entreprises indonésiennes sur le marché mondial. La signature de l'accord a lieu jeudi dans le hall principal de Bourse Indonésie, avec les parties impliquées, SA Assuranti Kresnamitra Bukalapak Kadin pour les affaires maritimes et la pêche et Conseil mondial de la logistique. Le chef du Conseil mondial de la logistique Samuel Salom a déclaré que la signature de l'accord était très importante pour encourager les hommes d'affaires en Indonésie et leurs partenaires commerciaux être plus compétitifs pour atteindre une plus grande croissance économique grâce aux plateformes numériques. Le Fonds monétaire international, ou abrégé en FMI, a de nouveau abaissé ses prévisions de croissance économique mondiale de 0,1% à 3,2%. Le FMI a également abaissé à 5% sa prévision de croissance économique pour 5 pays de l'Asie du Sud-Est cette année. Réagissant aux prévisions, la ministre des Finances, Sri Mulyani, après le séminaire sur l'économie macroéconomique 2019, tenu à Jakarta jeudi, a déclaré que le gouvernement tiendrait compte de toutes les considérations présentées dans le rapport de l'institution internationale. Le gouvernement a ses propres calculs et pense que la croissance économique indonésienne peut être maintenue. Selon elle, le gouvernement continuera à maintenir la croissance économique antérieure au cours de ce semestre. Le gouvernement est également attentif au secteur de la consommation intérieure. Les dépenses de l'État devraient rester positives. Le gouvernement indonésien a désigné Ambon, capitale de la province des Moluques, comme ville musicale mondiale à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, ou abrégé en UNESCO. Le maire d'Ambon, Richard Lauhanapesi, a affirmé à Jakarta jeudi que la musique était la principale force du peuple d'Ambon. Il a espéré que l'UNESCO pourrait désigner cette ville comme la ville de la musique du monde cette année. Il a fait cette déclaration lors d'un événement intitulé « Le point sur la région, la nuit d'Ambon 2019 », organisé par le ministère des Affaires étrangères et le gouvernement local d'Ambon pour présenter la ville d'Ambon à l'échelle nationale et internationale à travers de la musique et de la culture. Tandis que Cecep Herawan, directeur général du ministère de l'Information et de la Diplomatie publique, a déclaré que la musique et Ambon étaient indissociables. Les Ambonais ont la capacité de chanteurs depuis qu'ils ont dans l'utérus. Beaucoup de chanteurs célèbres viennent d'Ambon. Il est sûr que la ville d'Ambon peut bientôt être couronnée comme ville de musique du monde par l'UNESCO. Voilà le journal d'aujourd'hui.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission avec les infos de l'Indonésie. La première info est venue de Langur, Molukes du Sud-Est. M. Taher Hanubun, régent du Sud-Est des Molukes, a ouvert cette semaine l'événement « Une navigation merveilleuse » en Indonésie à Debut 2019 qui s'est tenu à Port Ohoy, au village Debut. Cet événement est participé par la Juang au développement des destinations touristiques du ministère du Tourisme d'Adang Rizky Ratman et le responsable du bureau du tourisme de la province Molukes, Habiba Saimima. Cette merveilleuse navigation en Indonésie au début de l'année 2019 a été confiée par le ministère du tourisme indonésien qui s'est tenu dans la région du sud-est de Molukes. Il s'agit de la troisième activité de la série intitulée Wonderful Sail to Indonesia. Il y a 105 marins impliqués originaires de 12 pays dont la France, l'Espagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suède, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Royaume-Uni, l'Australie et la Norvège avec 54 navires. Le régent M. Taher Hanubun a déclaré dans son discours que la région compte 68 îles, composées des îles Cayes Besars et Cayes Kecil, prêtes à accueillir des touristes étrangers avec divers objets tels que des plages, des cascades et un tourisme religieux pour le catholicisme. Ensuite, l'info de Bandar Lampung, Lampung. Le gouvernement provincial de Lampung a signé le plan d'activité annuel avec le Fonds de défense de l'environnement qui constitue un suivi de la coopération en matière de gestion durable des pêches en Indonésie, notamment en ce qui concerne la gestion des crabes indonésiens. L'assistance en charge de l'économie et du développement Taufik Hidayat, le secrétaire de la Direction générale des pêches de capture de la République d'Indonésie, KKP, et de l'organisation non-gouvernementale, Emil Litzinger. Le secrétaire de la Direction générale des pêches de capture d'Indonésie, Yuliadi, a déclaré que la coopération entre le gouvernement central, les gouvernements régionaux et les institutions en matière de gestion de la pêche durable au crabe présente de nombreux avantages pour la communauté. Dans le même temps, Taufik Hidayat, assistant en économie et développement, a expliqué que le crabier lui-même était une source de subsistance pour des milliers de personnes et qu'il était le troisième plus important produit de pêche exporté d'Indonésie après la crevette et le thon. La province Lampung est l'une des plus grandes provinces productrices de crabes d'Indonésie avec environ 12% de la production nationale dans le but d'exporter aux États-Unis. Le dernier, l'info de Gorontalo. Au total, 600 pêcheurs de la région Gorontalo Nord ont empoché la carte de marin rouge de la classe 3 de l'autorité du port de la province Gorontalo. Les pêcheurs obtiennent une carte d'identité officielle des gens de mer après avoir participé à une formation à l'autonomisation des communautés qui s'est déroulée du 22 juillet au 10 août 2019 à l'Université Ihsan Gorontalo. Les pêcheurs qui ont participé à la formation de base sur la sécurité en moto voilier obtiendront également un certificat de compétence de 60 000, preuve de leur certification. Chers amis, c'était les infos de l'Indonésie. Chers amis, nous continuons notre émission avec l'histoire d'aujourd'hui, le 27 juillet. Le 27 juillet 1921, la découverte de l'hormone insuline. Des chercheurs de l'Université Toronto au Canada, dirigés par le biochimiste Frederick Banting, ont annoncé la découverte de l'hormone insuline le 27 juillet 1921. L'Université Toronto est la plus grande université au Canada. Elle a été fondée le 15 mars 1827 et est bien connue dans le domaine de la recherche, en particulier de la recherche en médecine. Leonard Thompson, le jeune homme de 14 ans, atteint du diabète dans un hôpital de Toronto, a été le premier à avoir reçu de l'insuline. Un miracle, en moins de 24 heures, une glycémie dangereuse a chuté et Thompson a survécu de la mort. En 1923, le docteur Banting et McLeod ont reçu le prix Nobel de médecine pour la découverte de l'hormone insuline. Le 27 juillet 1953, la guerre de Corée est terminée. La guerre de Corée était une guerre due au conflit entre la Corée Nord et la Corée Sud. La guerre qui a eu lieu du 25 juin 1950 au 27 juillet 1953 a également été qualifiée de guerre mandatée entre les États-Unis et leurs alliés des Nations Unies et les communistes de la République populaire de Chine et de l'Union soviétique. Les principaux participants à la guerre sont la Corée Nord et la Corée Sud. Les principaux alliés de la Corée Sud sont les États-Unis, le Canada, l'Australie et le Royaume-Uni, bien que de nombreux autres pays envoient des troupes sous le drapeau des Nations Unies. Les alliés de la Corée Nord, tels que la République populaire de Chine, fournissaient un pouvoir militaire tandis que l'Union soviétique fournissait des conseillers de guerre et des pilotes d'avions ainsi que des armes pour les forces chinoises et nord-coréennes. Le 27 juillet 1996, l'événement du samedi gris. L'incident du 27 juillet 1996, souvent appelé le samedi gris, était l'opération de prise de contrôle forcée du bureau du conseil d'administration central du Parti démocrate indonésien, PDI, à la rue Diponegoro 58, Jakarta Central, qui était à cette époque contrôlée par les partisans de Megawati Sukarnoputri. L'arrêt a été mené par une masse de partisans de Suryadi, président général du congrès du PDI à Medan. Cet événement s'est transformé en émeute dans plusieurs zones de Jakarta, notamment dans la région à la rue Diponegoro, Salemba et Kramat. Le gouvernement de l'époque accusait les militants du PRD, Parti démocratique populaire, d'être le moteur des émeutes. Le gouvernement du Nouvel Ordre a ensuite traqué et jeté les militants du PRD en prison. Le chef du PRD, Budiman Sujatmiko, a été condamné à la peine la plus lourde, à savoir 13 ans de prison. Cher ami, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Baby, one more time. Hingga kau kembali padaku. Tell me, baby, one more time. Masih adakah peluang untuk diriku? Tell me, baby, one more time. Apa ku kurang sempurna? Tell me, baby, one more time. Berada di sisimu. Tell me baby one more time. Tidak cukupkah hanya dengan cintaku.
me baby one more time. Apa yang harus ku perbuat? Tell me baby one more time. Hingga kau kembali padaku. Tell me baby one more time. Masih adakah peluang untuk diriku?
Chanson intitulée Tell Me Baby ou en français Raconte-moi mon chéri, chantée par Yuka Tamada. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur l'onde courte de 3,3,5 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site de www.voynews.id. Chers auditeurs, la rubrique suivante, voici mon Indonésie.
Voice of Indonesia.
Chers amis de l'antenne, pour la rubrique suivante, voici mon Indonésie ayant pour le titre « L'Indonésie et les Émirats arabes unis renforcent la coopération dans 12 secteurs ». La rencontre entre le président Joko Widodo et le prince héritière Abu Dhabi, le vice-commandant suprême des forces armées des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, à Bogor, au palais présidentiel Ajaba Occidental, a abouti à 12 accords de coopération. La ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, expliquait que les 12 accords comprenaient 9 accords entre le ministère et 3 accords d'entreprise à entreprise. Les 9 accords concernent la protection accrue des investissements, la double évasion fiscale, l'industrie, les douanes, le tourisme, les affaires maritimes et la pêche, la défense, les affaires consulaires, le dernier est la culture. Les 3 accords entre entreprises constituent le premier est l'accord entre Pertamina et la compagnie pétrolière nationale d'Abu Dhabi, ADNOC, visant à élaborer un plan directeur de développement de la raffinerie RDMP, la chaîne d'approvisionnement intégré Balikpapan et Ink Storage. Deuxièmement, selon Mme Retno, concernant l'accord entre PT Chandra Asri Petrochemical et Mubdala Petroleum pour les projets relatifs à la matière première pétrochimique, nafta cracker et au complexe pétrochimique. Et troisièmement, entre Maspion Indonesia Société Anonyme et DP World ASI concernant le développement de terminaux à conteneurs et de zones industrielles à Java orientale. Les 3 protocoles d'entente entre entreprises ont une valeur totale d'environ 136 trillions rupiah, soit 9,7 milliards de dollars américains. Madame Retno a ajouté, lors de la réunion, le prince héritier d'Abu Dhabi, qui était également le vice-commandant suprême des forces armées des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, et le président indonésien Joko Widodo ont également discuté des projets qui peuvent être travaillés ensemble. Retno Marsudi a affirmé que l'accord entre les pays dans les domaines économiques était très utile pour soutenir les objectifs de développement durable tels que l'éducation, la santé, etc. Selon elle, les deux parties ont également parlé de cette coopération plus détaillée. Par conséquent, elle indiquait que le président avait chargé ses ministres d'exécuter immédiatement les plans d'investissement souhaités par les Émirats arabes unis. Le président a même rencontré les ministres présents pour continuer la coopération. On sait que les Émirats arabes unis disposent d'un très grand fonds souverain évalué à environ 1,3 trillion de roupias et ses potentiels sont coopérés avec les Émirats arabes unis. Auparavant, la ministre Retno Marsoudi a affirmé que la visite du prince héritier d'Abu Dhabi entend également le vice-commandant suprême des forces armées des Émirats arabes unis, Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, est une visite historique, car c'est une première visite d'État après 29 ans. La dernière visite en Indonésie a été effectuée par le Cheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan, père du Cheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, en 1990. Cerita, c'était mon Indonésie, de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Bagaimana ku bisa tegar? Selalu kau anggap ku tak ada. Meski kau tidak berikan cinta yang nyata, ku peduli kau anggap ku mengganggumu, ku sayangi kau anggap ku tak ada, ku di sampingmu, kau mengusirku. Si kamu sungguh beda, mungkin hanya aku halusinasi bahwa rasa kita sama. Ku peduli.
Chers auditeurs, vous venez d'écouter la chanson de Mita, dont le titre est Hallucinasi, qui signifie l'hallucination. Maintenant, nous allons vous présenter le magazine culturel sur le tourisme et la sagesse locale des Indonésiens.
Chers amis, bonsoir. Voici le magazine culturel introduisant Lawar, la cuisine balinaise traditionnelle. Lawar est une spécialité balinaise sous la forme d'un mélange de légumes et de viande hachée que l'on donne aux épices. Lawar était à l'origine utilisé pour servir lors de cérémonies traditionnelles et de cérémonies religieuses. Mais à la fin, cette nourriture est généralement servie dans un ménage balinais ou dans les restaurants appelés Lawar Bali. Les noms de lawar varient, généralement en fonction du type de viande ou des légumes utilisés. Si la viande de poulet est utilisée, elle s'appelle lawar de poulet. Si elle était utilisée comme fruit de jacquier, elle est appelée lawar de jacquier. Donner des noms peut également être basé sur la couleur du lawar. Lawar rouge si le lawar est rouge, lawar blanc quand le lawar est blanc. Il existe un lawar appelé lawar padamare, qui est un type de lawar composé d'un mélange de plusieurs types de lawar. La façon de faire lawar balinais n'est pas trop difficile. Coupez d'abord des haricots d'environ 1 cm, puis mettez de côté. Les germes de soja sont également nettoyés en enlevant les racines. Ensuite, chauffez l'huile, puis faites sauter les épices lisses jusqu'à ce qu'elles soient parfumées et cuites. Ensuite, entrez le poulet émincé en remuant jusqu'à ce qu'il soit légèrement sec. Ajoutez ensuite la noix de coco râpée, remuez à feu doux jusqu'à ce que la noix de coco soit sèche et commence à brunir. Puis, soulevez et laissez refroidir. Ensuite, mélangez les haricots longs, les germes de soja, le poulet et la noix de coco sautée. Donnez le jus de citron vert, mélangez jusqu'à consistance lisse et servir. Comme la plupart des ingrédients sont des légumes, le lawar ne dure pas longtemps. Maintenant, lawar est de plus en plus populaire parmi les touristes balinais et étrangers car il est souvent servi comme plat d'accompagnement quotidien et est généralement consommé après les cérémonies traditionnelles. À présent, ce qui est plus largement utilisé sont le fruit d'étoile, le jacquier, la jeune noix de coco, la jeune papaye et les épices balinaises. Chers amis, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci d'être fidèle avec nous. À demain.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Vous êtes toujours avec nous à Voice of Indonesia sur l'onde courte de 3,3-5 kHz. Vous pouvez écouter notre émission sur le site de www.voinews.id. Chers auditeurs, écoutons maintenant l'Indonésie en couleur.
Bonsoir à tous, voici l'Indonésie en couleur, informant sur l'Indonésie qui devient le pays favori des touristes chinois. L'Indonésie se classe au troisième rang des premiers pays de destination des touristes chinois en 2018. La position de l'Indonésie est inférieure à celle de la Thaïlande et du Japon, selon une évaluation de Ctrip.com, le plus grand fournisseur de services de voyage électronique en Chine. Compte tenu des principaux touristes chinois, les attractions touristiques indonésiennes sont plus attrayantes qu'aux Maldives, aux États-Unis, en Australie, en France, à Singapour, dans les Émirats Arabes Unis et en Italie. L'agent de voyage en ligne basé à Shanghai a déclaré que ses clients de touristes haut de gamme pourraient dépenser en moyenne 23 800 RMB, soit environ 48,7 millions de rupiahs par personne. Ce chiffre est bien supérieur à celui des touristes qui achètent un forfait standard qui ne coûte que 5 500 RMB ou 11,2 millions de rupiahs par personne. Les touristes haut de gamme viennent de Shanghai, Beijing, Guangzhou, Shenzhen, Hangzhou, Chengdu, Hong Kong, Nanjing, Xi'an et Tianjin. Parmi ces villes, Beijing, Shanghai et Guangzhou ont connu une croissance à trois chiffres au cours de la dernière année. Les touristes de la classe supérieure en Chine sont toujours dominés par les femmes, avec une part de marché de 56%. Bali reste une destination de choix pour les touristes chinois en vacances en Indonésie. En termes d'âge, les touristes des classes supérieures sont dominés par le groupe d'âge des 31 à 40 ans, qui atteint 24%. Environ 31% des principaux touristes chinois partent en vacances avec leurs partenaires et seulement 5% partent seuls. L'année dernière, le nombre de touristes chinois utilisant les services Ctrip a augmenté de 180% par rapport à l'année précédente. L'année dernière, l'Indonésie a reçu environ 2,6 millions de visiteurs chinois. Cette année, le ministère du Tourisme de la République d'Indonésie prévoit 3,5 millions de visites de touristes chinois. Chers amis, c'était l'Indonésie en couleur.
seperti ini berjalan. Derita paskah senang-senang. Aku dan keinginanku di atas kebutuhan. Kerasnya kehidupan, derasnya arus pergaulan. Aku dan keinginanku di atas kebutuhan.
Vous venez d'écouter la chanson de Kunto Aji intitulée Akhir Bulan, qui signifie la fin du mois. Nous continuons notre programme avec les informations musicales. Bonne écoute.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia de l'Indonésie à tout le monde. Cette édition, je vais vous donner la chanson Keroncong dont le titre est Gunung Seribu Janji. Cette chanson raconte des couples qui se promettent d'être fidèles. Tant que les deux tiennent la promesse, tout ira bien. L'amant est parti. Elle a prié pour que son petit ami soit toujours heureux. Les paroles de cette chanson nous invitent et nous rappellent de tenir toutes les promesses, pas seulement en amour. Alors, je vous présente maintenant Tuti Trisedia, intitulée Tinggi Gunung Seribu Janji. Bonne écoute!
Oh.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français.
Oh,
Chers auditeurs, voilà l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Merci de votre fidélité et restez toujours avec nous à Voice of Indonesia. Au revoir.